Bonjour mes frères et sœurs, voilà encore un message qui, je l'espère, vous bénira si vous êtes un véritable chrétien qui aimait ce qui est juste, mais qui de temps en temps avait quelques faiblesses. Je prie le Seigneur qu'il soit votre aide. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cause de cela que vous avez été appelés afin d'hériter à la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal, fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal, qui vous fera du mal, si vous avez pour modèle ce qui est bien. D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. Mes frères et sœurs, il faut bien le reconnaître, notre vie ici-bas, c'est une vie de souffrance et si vous ne souffrez pas aujourd'hui, ça peut vous tomber dessus n'importe quand. Maintenant, ici-bas, nous, les disciples de Jésus, nous avons un statut différent de celui des gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Les préoccupations quotidiennes n'occupent plus la place centrale. Nous allons plus loin. Nous pouvons dépasser les tourments des désirs, qui, en vérité, sont la cause des souffrances. Regardez votre vie. On est tous pareils sur ces choses. Quand on est lié avec ceux qu'on n'aime pas, c'est une douleur. Quand on se sépare ou qu'on est séparé de ce qu'on aime, de ce qu'on aime, eh bien c'est une douleur. Quand on n'obtient pas ce qu'on désire, c'est une douleur, non ? Qui a envie d'agir sans savoir qu'il a une récompense au bout? Les gens sont tous attirés par l'action, mais encore faut-il qu'ils y trouvent un bénéfice personnel. Agir sans envisager un bénéfice, c'est un truc qui nous est étranger, à nous, simples mortels. On a été élevé, on a été formaté dans l'idée d'investir et d'espérer une récompense pour tout ce que nous faisons. Ça, c'est notre nature humaine, c'est humain. On va dire c'est normal. Seulement voilà, nous sommes disciples de Jésus et nous ne sommes donc pas des gens normaux. L'esprit, notre esprit éternel, a des désirs contraire à ceux de la chair. C'est ce que l'apôtre nous dit. Et nous avons vu par expérience que c'est vrai. Le plaisir que notre esprit ressent en agissant, il ne le voit pas comme un bénéfice, c'est tout simplement son caractère. Celui qui se met au service du Seigneur se trouve toujours dans ce monde au quotidien, mais il est étranger. Étranger, étrange. Au service de Jésus, notre Maître, nous sommes au-delà du rationnel. Les gens du monde ont peur du rationnel ou le rationnel les attire, ça dépend. Nous utilisons chaque occasion pour prendre conscience de la nécessité de l'abstrait. Alors attention, La signification de ce mot peut changer votre vision du monde et de votre place dans ce monde. Le mot abstrait signifie détourné, isolé, séparé mentalement un élément de... Vous voyez, le serviteur de Dieu, c'est-à-dire le chrétien normal, dans les églises, on dit que les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui prêchent. C'est faux. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Toute chrétienne est une servante de Dieu. Eh bien, le serviteur de Dieu prend conscience de la nécessité de l'abstrait, c'est-à-dire de se rendre disponible à Dieu et aux autres pour être en dehors de la situation, de l'événement. Le disciple de Jésus est en état de réceptivité intérieure pour pouvoir donner à l'extérieur. Parce que le disciple de Jésus voit les intérêts de Dieu et des autres avant les siens. Je parle de vrai disciple de Jésus. Par exemple, quand il a une difficulté, quand il y a un événement tragique qui lui tombe dessus, un disciple de Jésus ne le prend pas personnellement. Il sait que ça fait partie d'un plan, du plan de Dieu, son Père céleste, qui ne lui veut que du bien. Alors, il s'accroche à sa foi pour dire « Ok, et maintenant, la vie continue. » Quand tout s'effondre autour de lui, le serviteur de Dieu admet que c'est terrible. On ne va pas nier ça. Mais il reprend son chemin avec courage et même, je dirais, avec légèreté. Il dit « Ok, maintenant, la vie continue. » Et il passe pour un anormal. Mais vous voulez quoi ? Être normal ? Comme les gens de ce monde qui souffrent et tournent rond dans leur souffrance ? Quand vous leur parlez, ils ne vous parlent que de ça ? De leur souffrance, gna 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 gna, gna 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 gna, et ceci et cela. Ou est-ce que vous voulez être anormal, c'est-à-dire différent des gens de ce monde? En souffrant, oui, bien sûr, mais en sachant que ça sert à quelque chose, que ça fait partie du plan divin. Un serviteur de Dieu, c'est-à-dire un chrétien normal, hein, je répète bien, ne se sent pas au centre de la vie des autres. Les autres, c'est-à-dire les païens ou les chrétiens charnels, jaloux, mesquins, accusateurs, ils sont leur propre centre. Et les gens qui les entourent, ne sont que des personnages de leur pièce de théâtre dont ils ont le rôle principal. C'est comme ça qu'ils voient la vie. Si ces gens-là agressent un vrai serviteur de Dieu, ce serviteur de Dieu ne va pas se sentir offensé. Il sait que les gens de ce monde et les chrétiens charnels ne font que de jouer leur rôle. C'est leur nature. Leur nature a peur de vous parce que vous n'êtes pas comme eux, parce que vous êtes différent. La différence fait toujours peur. Ou elle attire. Alors, il y a des gens qui sont attirés par les véritables enfants de Dieu, mais c'est d'une façon charnelle. Au bout d'un moment, ils rejettent ça parce que c'est anormal, injuste. Un lion qui va vous attaquer dans la savane, ça ne vous offense pas. Il joue son rôle, c'est tout. Bon, ce n'est pas très agréable, mais il joue son rôle. C'est un lion. C'est une question de nature. Alors, comment réagit un vrai serviteur de Dieu dans une situation difficile, au milieu de gens pénibles,
de chrétien charnel, de chrétien accusateur, de chrétien au moins surdimensionné, qui se prennent pour quelque chose, eh bien, ils se protègent. Ils se protègent des lions, des chrétiens charnels et des gens de ce monde. Ou ils s'éloignent d'eux. C'est aussi une façon de se protéger, s'éloigner. Mais sans se sentir moralement lésé. Comment peut-on en arriver à ce niveau? Parce que c'est un degré de spiritualité auquel nous avons à tendre, nous n'y sommes pas arrivés le jour où nous avons levé la main dans une réunion, ou le jour où nous avons été trempés dans l'eau, baptisés. C'est un travail de longue haleine pour arriver à ce niveau. Eh bien, un vrai serviteur de Dieu, il ne s'encombre pas de l'inutile pour aller au combat. Il sait qu'il est dans une guerre d'esprit. Et ce qui est le plus inutile, c'est l'autocontemplation. Nous avons, en tant que disciples de Jésus, à nous nourrir de la parole de Dieu qui nous rend humbles et qui nous aide à ne plus avoir à nous nourrir du sentiment de notre propre importance. Mon ministère. Vous voyez, depuis des années, j'entends des chrétiens qui voient le diable partout, ils se croient attaqués par le diable. Ben écoutez-moi bien, cessez de vous nourrir du sentiment de votre propre importance. Vous n'êtes pas attaqués par le diable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez important. Se croire attaqué par le diable, c'est une forme d'orgueil. Le diable est un esprit. Il ne peut être qu'à une seule place à la fois. Et vous pensez qu'il s'occupe de vous, mais il a bien d'autres chats à fouetter. Pour ma part, je suis certain que le diable ne sait même pas que j'existe. Je suis trop minable. Mais je suis quoi, moi? La plupart du temps, ce qui nous arrive de désagréable, c'est simplement le résultat de nos actions, de ce que nous avons semé, ou alors c'est l'impondérable. Vous semez le vent, vous récoltez la tempête, et le diable n'a rien à voir là-dedans. Ou alors c'est l'impondérable. Il pleut sur les bons comme sur les méchants, il fait beau sur les méchants comme sur les bons, c'est l'impondérable. Il va vous tomber une cuile sur la tête, c'est juste l'impondérable, c'est pas le diable. Ne mettez pas le diable dans tout ce qui vous arrive. Oh Michel, c'est peut-être les armées du diable alors, les démons. Ok. Vous savez, les démons n'ont de pouvoir que celui que vous leur donnez. Oui, mais Michel, il est écrit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. 1 Pierre 5,8. Ok. Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis. Maintenant, comment est-ce qu'il faut chasser ce lion? Il faut le savoir. Le lion rugit pour intimider sa proie. Pourquoi est-ce que vous vous laissez intimider? C'est là la question. Qui est le plus fort? Le lion rugissant ou celui qui vit en vous? Pourquoi le lion rugit-il? Il faut quand même, la Bible nous parle de lion rugissant, il faut quand même avoir une toute petite idée au sujet de ce qu'est le lion et comment il le chasse, comment il fait son boulot. Pourquoi est-ce qu'il rugit le lion? Pour intimider celui qu'il cherche à dévorer. mais il n'est jamais seul. Voilà le plan du lion. Je vais vous expliquer, c'est simplement par l'étude du caractère du lion, de ses us et coutumes, de ses instincts, de sa façon d'agir, de chasser. Voilà le plan du lion. Lui, il rugit. Et la gazelle, elle prend peur, alors elle se met à courir dans la panique et elle tombe sous les pattes de la lionne qui est embusquée un peu plus loin et voilà comment les lions chassent. Alors, le lion rugit, le diable rugit, ou quelqu'un rugit, ou une situation est terrible et rugit, ou une de vos tendances charnelles, une de vos obsessions charnelles rugit. Un problème bien réel surgit, rugit, ok. Hey, t'es pas encore bouffé parce qu'il rugit. Mais vous allez l'être si vous vous laissez intimider par ce rugissement. Et si vous vous mettez à paniquer, et si vous courez au hasard n'importe comment pour essayer d'échapper au lion. Oh, si vous connaissez Dieu, vous savez qu'il est en vous et que rien ne peut vous nuire et que Dieu en vous est plus fort que n'importe qui. Plus fort que le diable, plus fort que les démons, plus fort que les gens, plus fort que les événements, plus fort que tout. Comment réagissent les gens en général? Et vous, comment vous réagissez quand le lion rugit, que ce soit le diable? Ce qui est très rare, parce que le diable ne s'occupe pas beaucoup de vous, j'en suis certain. Vous êtes un peu comme moi, vous n'êtes pas tellement, tellement important. Je pense que le diable, il s'occupe plutôt au niveau des guerres au Moyen-Orient et dans toutes ces histoires d'islam, d'intégristes et dans les banques et puis dans les avocats et toutes ces histoires financières et juridiques et toutes ces autres finances. Et là, je crois que là, le diable fait ses courses. Mais avec vous, avec moi, s'il vous plaît, un peu d'humilité, s'il vous plaît. Quand le lion rugit, que ce soit un démon, ou que ce soit une personne, ou que ce soit votre chair a des exigences rugissantes. Comment devez-vous agir? Rugissez plus fort! C'est ce que Pierre dit. Résistez-lui avec une foi ferme, inébranlable. Sachant que tout ça, ça arrive à tous vos frères et sœurs dans le monde entier. C'est normal. Vous n'êtes pas un cas. C'est de l'orgueil de penser que vous êtes un cas. Vous êtes une brebis du Seigneur, oui, mais vous êtes une brebis qui a des pouvoirs. Par exemple, vous êtes une brebis qui peut rugir plus fort que les lions rugissent. Intimidez donc le diable. Intimidez les démons. Intimidez les abrutis qui osent s'attaquer à vous. Rugissez! Le meilleur moyen, c'est de leur parler en langue dans la figure. Ça, c'est ma sœur Camélia qui m'a appris. Tu leur parles en langue dans la figure. Elle avait raison. Mais bon, avant et après les rugissements du lion, Pierre nous donne un conseil. Ce qu'il faut faire avant, ce qu'il faut faire après. Il dit, soyez vigilants, soyez sobres. Si vous ne l'êtes pas, vous allez être intimidé outre mesure par les rugissements. Vous allez paniquer, vous allez courir dans tous les sens et c'est la lionne qui va vous bouffer et partager avec son lion. Bon, ok. Il se peut que vous soyez en train d'être bouffé là, en ce moment même. Que faire? Endurez silencieusement. Vous vous êtes fait avoir, ça m'est arrivé. Ben, j'en suis pas mort, j'ai failli. Grâce à Dieu, j'en suis pas mort. Vous vous êtes fait avoir. Reconnaissez-le humblement. Vous êtes toujours un serviteur de Dieu. Alors montrez à tous que vous savez renoncer et être brisé en tout, être dépouillé. Nous avons tous besoin de mourir à nous-mêmes. Alors contemplez votre souffrance avec l'esprit et non pas avec votre chair. Votre chair, elle déteste tout ce qui ressemble à l'échec. Abandonnez en tout votre sentiment d'importance. C'est encore temps de le faire. Considérez le fruit de ces souffrances. Elles ne vont pas durer éternellement, ces souffrances. Et pour avoir renoncé à d'insignifiantes satisfactions ici-bas, tu vas trouver auprès de Dieu tous les biens sans craindre de les perdre. Mes frères et sœurs, nous sommes dans cette condition mortelle, nous sommes là pour apprendre. Et le Seigneur sait tout, tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive, et tout est sous son contrôle. Ne panique pas. Garde ta volonté unie à la sienne. Ne souhaite, ne désire rien de personnel. Et Dieu te rendra, pour l'outrage enduré, la gloire. Pour l'affliction, l'allégresse. Pour la dernière place qu'on t'a donnée, un trône dans le royaume éternel. Parce que c'est là que paraîtront les fruits de ton obéissance et de ta soumission à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est là, là sera glorieusement couronnée ton humble soumission. Cette soumission que tu auras eue dans les bons comme dans les mauvais jours. Alors, que chacun de ceux qui m'écoutent ici, c'est ma prière, s'incline avec moi sous la main de Dieu. Parce que ce que nous devons désirer, c'est que par la vie comme par la mort, Dieu soit toujours glorifié en nous. Je voudrais vous faire une lecture pour terminer dans Philippiens 1, 2. Philippiens 1, 2. Je lis. Philippiens, non, pardon, 1, 20. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Vous êtes perdant où? Nulle part. Nulle part. Je suis perdant où? Nulle part. Absolument nulle part. Il continue au verset 27, disant seulement, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Amen. Jésus, je te prie pour que ce court message fortifie ceux qui ont besoin de l'être et avertisse ceux qui ont besoin de l'être. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Au revoir.